franceinter.fr.
La revue de presse, Hélène Jouan, bonjour.
Bonjour.
À l'instant, l'Office syrien des droits de l'homme annonce que l'armée syrienne vient de prendre le contrôle de la totalité de la vieille ville d'Alep, annonce il y a quelques minutes de l'Office syrien des droits de l'homme. C'est la Syrie qui fait la une de votre revue de presse également. On en a parlé avec François Bayrou et la position d'un de nos candidats à la présidentielle.
De grâce, Monsieur Fillon, écrit Michel Touma dans le quotidien libanais L'Orient le Jour. Michel Touma qui déconstruit implacablement la position de François Fillon concernant le règlement de la crise syrienne. Le candidat Les Républicains, on le sait, prône une coopération avec le régime de Bachar el-Assad et les Russes afin de gagner la bataille contre l'État islamique. Eh bien, c'est un double non-sens, lui explique Michel Touma. Prétendre qu'une attitude complaisante à l'égard du tyran syrien permettrait de mener à bien le combat contre Daesh, c'est occulter les faits établis à maintes reprises. Est-il possible que M. Fillon ne sache pas qu'au printemps 2011, Bachar el-Assad a libéré de ses geôles plus d'un millier de cadres et de ténors djihadistes, manœuvre diabolique pour discréditer la rébellion? Les dirigeants occidentaux l'ont dit, c'est Assad qui a fait Daesh en Syrie. La liste de témoignages et de faits sur le terrain accrédite leurs propos. Monsieur Fillon pourrait utilement s'en informer. François Fillon comparé dans l'article à Donald Trump. Seconde aberration, poursuit Michel Touma. Monsieur Fillon prône de s'accommoder avec Dabbas dans le but de défendre les chrétiens d'Orient. Monsieur Fillon ignore-t-il que durant les 30 années d'occupation syrienne du Liban, le régime Assad, père et fils, n'a épargné aucun effort, aucun moyen pour marginaliser le pouvoir chrétien, multipliant les assassinats, pilonnant des quartiers chrétiens, perpétrant des massacres. Là aussi, la liste est longue, très longue. Alors de grâce, Monsieur Fillon, conclut Michel Touma, si vous souhaitez réellement la défense des chrétiens d'Orient, ne cherchez pas à faire relâcher le loup sanguinaire dans notre bergerie. Cet édito est donc à lire sur le site de L'Orient les Jours.
La presse française s'intéresse, elle, ce matin, évidemment, au nouveau Premier ministre.
Enfermer les poulets, titre Libération Champagne. Non, évidemment, ça n'a rien à voir avec le passage de Bernard Cazeneuve à De Beauvau à Matignon. Libération Champagne s'inquiète, comme d'autres titres de la presse régionale, de l'épizootie de grippe aviaire qui commence à sévir. Les unes de la presse sur le nouveau et a priori le dernier Premier ministre de François Hollande insistent surtout sur la brièveté du mandat qui l'attend. Premier ministre en CDD pour le Courrier Picard. De Cherbourg à Matignon, s'enorgueillit malgré tout la presse de la Manche pour saluer l'arrivée d'un enfant du pays. 5 mois et puis s'en vont pour Sud-Ouest. Dans vos quotidiens, vous glanerez tout ce que vous ne savez peut-être pas encore de ce Premier ministre jusque-là assez discret. Son surnom, R2D2, pour sa capacité à absorber les notes budgétaires quand il est arrivé à Bercy. Ses dons d'imitateur, sa passion, les rosiers, nous raconte Libération. Son aptitude à parler en créole, notamment avec Christiane Taubira, révélée il y a quelques mois par l'Obs. Son équanimité dans l'adversité et son sens de l'autodérision qu'il partage, paraît-il, avec François Hollande, et puis ses colères tout aussi féroces, son goût enfin pour Flaubert et le violon, qu'il parviendrait même à faire cohabiter avec son penchant pour des croûtes musicales, dit Le Figaro, du type Karen Cheryl, paraît-il.
Mais pourquoi lui et pourquoi faire ?
Guillaume Tabar dans Le Figaro résume les raisons qui ont poussé François Hollande à le choisir. Choix de la tranquillité, personnelle d'abord. Cazeneuve ne cherchera pas tant à exister pour lui-même qu'à valoriser le bilan du chef de l'État. Politique, surtout tranquillité politique. L'ancien maire de Cherbourg a une réputation de maîtrise de soi et de connaissance solide des dossiers. Cela lui permettra de se consacrer à soigner la mise en scène de la fin de son quinquennat. Et c'est là évidemment qu'on en arrive à 5 mois pour faire quoi, comme s'interroge le Parisien. Soigner cette sortie, justement, celle de François Hollande. Alors que Bernard Cazeneuve a dit lui aussi qu'il souhaitait sortir de la politique à l'issue de ce quinquennat. Sans destin et entretenant de bonnes relations avec tout le monde, il permettra peut-être de déshystériser la gauche, veut croire un élu cité par l'opinion. Bernard Cazeneuve, à qui on prête décidément toutes les vertus ce matin, c'est Saint-Louis guérissant les écrouelles. Seul bémol notable, l'Humanité, qui dénonce un exécutant des politiques austéritaires et sécuritaires. En tout cas, des vertus telles que Nathalie Segone, dans l'opinion, s'en amuse en conclusion de son article. À croire, dit-elle, que François Hollande avait gardé le meilleur pour la fin.
Dans l'actualité en France, Hélène, également, la mauvaise surprise DPH, je sens que ça va parler à notre invité.
Les automobilistes, oui, un spécialiste des autoroutes et des péages et de la privatisation notamment. Les automobilistes
hostiles,
bien sûr, pardonnez-moi. Les automobilistes, en tout cas, qui se sont fait rouler tranche ce matin aujourd'hui en France, le Parisien. En revanche, ceux qui sont heureux, eh bien, ce sont les concessionnaires d'autoroutes. Chiffres à l'appui, au total, le résultat net des 7 concessionnaires historiques augmente de près de 15% en 2015. Alors, vous vous souvenez évidemment qu'en 2015, justement, en pleine polémique sur la rente des autoroutiers, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, avait décidé que la hausse des péages n'aurait pas lieu. On avait tous applaudi. Sauf que quelques mois plus tard, dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les concessionnaires, eh bien, ce petit cadeau aux automobilistes avait été oublié. Mieux, l'accord prévoyait un rattrapage du gel de 2015, entre 2019 et 2023. Résultat, 500 millions de plus à payer pour les automobilistes, selon un rapport de l'Autorité de régulation des transports.
Bon, c'est pas ça qui va faire changer d'avis François Bayrou.
Non, mais on pourra en dire un mot après, parce qu'il y a, des choses à dire sur ce sujet.
Ah bah allez-y, maintenant, puisqu'on est dans le sujet.
Comme vous savez, je me suis beaucoup opposé, jusqu'à aller à titre personnel, au Conseil d'État, contre la privatisation des autoroutes.
Par le gouvernement Villepin, oui.
De la concession des autoroutes. Simplement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a quelques mois, on a allongé la durée des concessions, sans le dire à personne.
Ça faisait partie, effectivement, du protocole d'accord entre le gouvernement
par
et les autoroutiers.
D'accord, dont le gouvernement refuse obstinément de donner le contenu. Il y a des citoyens qui sont allés devant les autorités compétentes en justice pour obtenir le contenu. Le gouvernement a été condamné à communiquer le contenu. Et rien ne se passe. On est dans un pays où cette question des autoroutes, des concessions, de la manière totalement opaque dont ça s'est fait, se perpétue au travers du temps. Et les gouvernements eux-mêmes qui disent la main sur le cœur, qui naturellement ils n'auraient pas fait ça, continuent et vont dans cette voie-là. Moi je trouve que c'est scandaleux parce que c'est mettre à la charge des usagers ce qui normalement aurait dû être un allègement de cette charge pour eux. On avait même promis, je vous le rappelle, lorsqu'on les a créées, qu'un jour elles deviendraient gratuites, les autoroutes. Elles étaient, le financement de l'investissement était assumé, et à ce moment-là, on a décidé de les privatiser pour le plus grand bien des concessionnaires, dans l'opacité la plus complète. Ceci n'est pas acceptable.
On termine, Hélène, par un conseil de lecture.
Un conseil de lecture, parce que oui, pour l'instant, ce n'est pas très drôle. Donc, Sofilm, pour comprendre le phénomène Plus belle la vie, la bouillabaisse préférée des Français, à 20h25, tous les soirs, sur France 3. 12 ans que la série existe, 5 millions d'intimes tous les soirs, 500 emplois créés à Marseille. Paraît-il, ça ferait rêver n'importe quelle mère. On parle de tout, presque, dans Plus belle la vie. Secret de fabrication de cette série française, née de Love Story, paraît-il. Show transgénérationnel qui est peut-être devenue la plus grande série politique de notre époque. Et ouais, c'est ce que le reportage dit. C'est franchement intéressant, en tout cas si on est fan, évidemment, de Plus belle la vie.
C'est dans Sofilm, le magazine. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.